Chapitre 3e. Les pensées qui, durant le reste de la nuit, traversèrent le cerveau de Ludwig et agitèrent violemment son sang, n'ont pas besoin d'être analysées. À 25 ans, être le héros d'une aventure mystérieuse, se trouver tête à tête avec une jeune fille qui cache son visage et montre son âme, il y a là de quoi rêver toute sa vie. Chez Ludwig, il y avait surtout de la vénération, du respect, le besoin de dévouement pour Antonia de Kinitz. Dès ce moment, il éprouvait un désir immodéré de la savoir heureuse. Il ne songeait pas à être heureux par elle. Le jour naissait à peine lorsque le pas d'un cheval retentit sur le pavé de la cour du château. Le baron s'éloignait avant le lever des habitants pour épargner à ceux-ci des adieux embarrassants. Seul le vieux majordome l'avait salué. En peu de temps, Ludwig atteignit le village de Reisenach, situé au nord du château dont les tourelles étaient en vue. C'est là que commençaient ses propriétés. Une fois sur son domaine, il était certain d'obtenir tous les renseignements qu'il pouvait souhaiter. Quand Ludwig entra dans le village, il remarqua une certaine agitation. Les gens allaient, venaient, causaient à voix basse, se groupaient autour d'une auberge d'assez mince apparence, mais que décorait cette pompeuse enseigne, hôtellerie des trois rois mages. Devant la maison, stationnait un lourd carrosse aux panneaux épais, aux roues larges. Si le carrosse n'était pas élégant, en revanche, l'écusson armorié qui le décorait annonçait un possesseur très pourvu de quartier nobiliaire. 4 vigoureux chevaux, que des valets d'écurie étaient en train d'atteler, piaffaient et hennissaient de façon à satisfaire l'amour-propre du personnage que cette voiture allait bientôt emporter. En voyant arriver Ludwig, un simple cavalier vêtu de noir, sans suite, sans faste, l'aubergiste ne daigna pas se déranger. Il jeta seulement sur le nouveau venu un de ses regards obliques qui glissant que la tête remue. Le baron ne s'émut nullement de cette impertinence. Il descendit de cheval, attacha lui-même sa monture et entra dans la maison. Une servante vint à lui et s'informa de ce qu'il désirait. « À déjeuner, d'abord, mon enfant, puis j'aurai une question à faire à ton maître. » « Pour ce qui est de déjeuner, » dit la paysanne, « ça serait difficile en ce moment, monsieur, car toutes nos provisions ont passé à la table de nos voyageurs. » « Au moins, apporte-moi quelques rafraîchissements et appelle ton maître à qui j'ai besoin de parler. » « Lui parler, monsieur, oh, c'est impossible. »«
Impossible, » répéta Ludwig en souriant.
« Dame, monsieur, il est bien occupé. Songez donc que nous avons eu cette nuit un grand seigneur et sa suite. »
« En vérité, par quel miracle, dans ce pays écarté ?»
« Ah, voilà, ils se rendaient au château de Kinitz et la nuit les a surpris. Ils ont donc été forcés de s'arrêter ici. »
En entendant nommer le château, Ludwig éprouva cette curiosité impatiente qui agite le cœur sans qu'il en sache la cause. Au même instant, l'aubergiste s'approcha et dit en fronçant le sourcil « Eh bien, Thécla, que faites-vous à causer ainsi quand Madame la Comtesse vous demande depuis 1 heure? Montez vite chez elle. »
Ludwig ne put s'empêcher d'admirer l'air majestueux de maître Johannes Milder. Profitant de l'occasion pour tirer quelques mots de cet homme, il lui dit « Excusez-moi, mon cher monsieur, si j'abuse de votre temps précieux. En effet, je suis pressé. Que voulez-vous, mon cher monsieur? Vous demandez s'il y a dans ce village une autorité, un bourgmestre. »
« Un bourgmestre ? » s'écria l'hôtelier en se redressant de toute sa hauteur.
« Vous n'irez pas loin pour parler à ce magistrat. »
« Comment ? » ?»«
Il est devant vous. »
« Je suis enchanté, »
dit Ludwig avec un sourire légèrement railleur, « du hasard qui m'a si bien adressé. À votre tour, vous voyez devant vous le propriétaire actuel de ce village et des terres environnantes. » L'hôtelier ouvrit des yeux incommensurables, et par un double mouvement, il recula d'un pas et porta la main à son bonnet fourré. Cependant, un instinct de méfiance réprima chez lui l'émotion de la surprise. Ainsi, hochant la tête, il dit avec un mélange de respect et de doute,
« Monsieur, monseigneur, j'admets que... Ne pourriez-vous pas me fournir quelques preuves de votre haute naissance ?»«
Des preuves ? Tant que vous en voudrez, maître, savez-vous lire ?
Si je sais lire, moi, un magistrat ?
Assurez-vous par vos propres yeux de ma qualité, de mes droits. » À peine l'hôtelier eut-il jeté un regard sur les parchemins que lui présentait Ludwig, qu'il pâlit en poussant de courtes et fréquentes exclamations. Il n'eut pas besoin de continuer longtemps sa lecture pour être certain que le baron de Lüdebourg, l'unique possesseur des terres de la localité, était devant lui.
Devenu aussi respectueux, aussi humble, qu'il avait été d'abord dédaigneux et insolent, il se découvrit la tête et cria en agitant son bonnet.
« Vive, monseigneur! Vive, monseigneur! Dieu soit loué! Tekla, Jacques, Flogig, accourez! Donnez à monseigneur tout ce qu'il vous demandera !»
Et avant que Ludwig eût pu mettre un terme au débordement des paroles de l'aubergiste, celui-ci s'était précipité hors de la salle et avait gagné la rue, courant comme un fou. Le baron était encore aux prises avec l'étonnement, lorsqu'une porte s'ouvrant au haut d'un petit escalier de bois livra passage à un homme de taille élevée, richement vêtu, à la physionomie aristocratique. Ce personnage paraissait fort mécontent. Il toisa Ludwig sans le saluer, et tout en continuant de le regarder, il gourmanda rudement les gens de la maison sur leur peu de diligence et de soins dans le service.
« Je voudrais bien savoir qui vous a distrait. »
Tout à coup, une fanfare bruyante ébranla les voûtes de la maison. C'était un mélange de violons, de hautbois, de tambours et de fifres, grossières aubades données avec beaucoup de zèle, mais peu de mesure. Ludwig, étonné, se leva, tandis que le personnage dont nous venons de parler faisait une terrible grimace. Cependant, cet homme à l'air hautain se radoucit. Une idée subite venait de lui traverser l'esprit. À coup sûr, ses honneurs lui étaient rendus à lui, le marquis César de Malipieri. Il se montra donc assez gracieusement à une fenêtre, comme pour recevoir les humbles salutations des paysans. Mais ceux-ci ne bougèrent pas. Ludwig alors, moitié par curiosité, moitié par malice, s'avança vers une autre fenêtre. Il n'eut pas été plus tôt aperçu qu'un hurrah formidable sortit de toutes les poitrines. On n'entendait que ces mots « Vive monseigneur le baron !» Aussi Ludwig crut-il devoir adresser à cette foule un salut gracieux que de nouvelles acclamations accueillirent. En se retournant, il vit, indépendamment du marquis de Malipieri, une femme de 30 ans environ, fort belle, mais de cette beauté brune et un peu dure qui glace l'amour tout en inspirant l'admiration. Cette femme portait un riche costume de voyage. À l'aspect du baron, elle rougit extrêmement. Mais ce trouble ne fut pas de longue durée, et avec l'aisance parfaite que donne l'habitude du monde, elle s'avança vers Ludwig. « Vous ici, monsieur ? » dit-elle. « La comtesse Théodora ! » murmura-t-il, d'une voix presque étouffée par l'étonnement. « Je vous croyais en Italie, madame. »
« Non, j'ai changé brusquement de goût. L'Italie m'était devenue presque aussi odieuse qu'elle m'avait paru jusqu'alors séduisante.
Mais vous, par quel hasard ?»«
Une affaire importante m'a appelé au château de Kinitz. »
« Au château de Kinitz ?
Précisément, nous y allons, mon frère et moi. Voulez-vous nous y accompagner ? Notre voiture est prête. »«
1000 remerciements, madame, je viens de quitter le château. Ce n'est donc pas pour y retourner. » »«
Est-ce à vous que s'adressait cette bruyante fanfare ?»«
Je le crois, » dit simplement Ludwig. « On m'a reçu comme un nouveau maître. Ce pays m'appartient. »«
À vous ?»
dit avec un ton hautain le frère de la comtesse. Ludwig ne répondit que par une inclination de tête. Il offrit la main à Théodora pour l'aider à descendre jusqu'à la rue. Pendant ce temps, il lui glissa ces mots prononcés à voix basse.
« Madame, quel dessein conduit votre frère au château de Kinitz ?
Mais vous êtes curieux ?
J'ai besoin de le savoir.
Eh bien, c'est un voyage d'agrément. Nous avons voulu visiter ce pittoresque manoir. Une lettre d'un ami commun nous introduira auprès du comte. » En achevant de donner cette explication, Théodora monta vivement dans son carrosse. Son frère se plaça en face d'elle, et la voiture partit rapidement dans la direction du château.